The French Connection.
Bonjour et bienvenue à l'épisode 295 de la French Connection. Cette semaine, un épisode spécial. On est avec Steve. Bon matin, Steve.
Bonjour, bon matin, bonsoir.
Yes, salut Francis.
Bonjour, bonjour.
Et on est avec notre invité spécial, Éric Fourier, fondateur de GitGuardian, qui se joint à nous de New York. Bonjour Éric.
Bonjour à tous. Bonjour à tous.
Et merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, on veut parler d'un de vos rapports qui est sorti, relié évidemment à ce que vous faites chez GitGuardian, qui est la découverte des secrets, évidemment, dans le code, là, dans les repos sur Internet et en entreprise. Est-ce que tu peux m'introduire un petit peu, qu'est-ce que vous faites? Ça fait combien de temps que tout ça existe? Puis de quoi qu'on parle aujourd'hui?
Avec plaisir. Je me présente rapidement. Effectivement, Éric Fourier, fondateur et CEO de GitGuardian. Je crée GitGuardian en novembre, début 2018, on va dire. Maintenant, ça remonte un peu à loin. GitGuardian, au début, c'était un side project. Donc, l'idée, c'était vraiment de... j'étais développeur et data scientist de formation. Et je me suis rendu compte effectivement à l'époque que les data scientists n'étaient pas forcément les meilleures personnes pour écrire du code sécur et surtout gérer leurs secrets. Je suis parti avec cette idée de comment je pourrais aider les développeurs à écrire du code plus sécurisé, à mieux gérer leurs secrets. Et donc, j'ai commencé à créer un petit robot à l'époque qui scrapait tout le code open source sur GitHub. Et à chaque fois qu'on analysait le patch, les diffs et les commits, pour trouver, à l'époque, c'était le moteur supportait une trentaine de secrets, pour être les clés d'infrastructure AWS, les clés des credentials qui donnaient accès aux bases de données. Et à chaque fois qu'on trouvait un secret, j'envoyais un email aux développeurs en disant « Attention, on a trouvé un secret ici. » Et très vite, on a eu un retour très intéressant de beaucoup de développeurs qui nous disaient effectivement merci pour avoir trouvé ce secret. Et en fait, en regardant en tant que bon data scientist, j'ai un peu deep dive dans les données et je me suis rapidement rendu compte, ce qui n'était pas ma première intuition à l'époque, c'était de se rendre compte que finalement, au lieu de trouver des secrets qui appartenaient aux développeurs et qui étaient pour leur petit projet du dimanche, je trouvais des secrets en fait qui donnaient accès à des choses très importantes et à des données sensibles de très grosses boîtes. Et l'histoire un peu de la création de la société formelle, c'est un jour on a trouvé la clé Slack admin de la NASA qui donnait accès à tous les fichiers, à tous les messages. Et donc à ce moment-là, on s'est dit bon, on joue plus, c'est plus un jeu, c'est un vrai problème qui touche toutes les boîtes du monde, et on va essayer de résoudre ce problème. Et donc c'est là où j'ai décidé de créer GitGuardian, avec vraiment cette mission d'essayer de protéger les entreprises contre tout ce qui est leak lié à des secrets, à mieux gérer leurs identités non humaines et leurs credentials. On a lancé effectivement à l'époque notre premier produit qu'on détaille un peu dans ce rapport-là, qui est cette idée de dire, d'essayer de, pour toute entreprise dans le monde, finalement, on est capable d'identifier ces développeurs qui commitent sur GitHub. On analyse tout le code qu'ils produisent et maintenant on a étendu aussi à d'autres sources publiques, ça peut être Docker Hub, ça peut être des package managers. On essaye d'identifier effectivement est-ce que ils ont malencontreusement exposé des secrets qui sont accessibles publiquement à tout le monde et qui malheureusement effectivement aujourd'hui est devenu une porte d'entrée très importante pour les attaquants. On a vu, je pense, sur les 6 derniers mois, toutes ces attaques, que ce soit LightLLM, Trivi, etc., où finalement les attaquants entrent par une porte, soit software supply chain, soit des attaques par phishing, soit des attaques par, social engineering. Et leur but ultime, ça va être de voler des secrets pour avoir plus de privilèges et bouger latéralement dans les entreprises. Et donc voilà, nous, effectivement, on s'intéresse vraiment à ce problème en commençant par ce qui est plus critique, c'est-à-dire les secrets exposés publiquement. Et on fait ce rapport chaque année depuis maintenant 2021 où on analyse finalement tous les secrets qu'on a trouvés sur GitHub publiquement. Et voilà, et depuis, GitHub a pas mal grossi. Hein, aujourd'hui, on est 150 à peu près personnes réparties entre la France et les US. Après 120 personnes en France, une trentaine aux US. Et on fait aussi 60-70% de notre revenu en Amérique du Nord. Donc ça a pas mal grossi depuis. Et Guild Guardian aussi, donc on a continué notre à commencer comme produit gratuit pour les développeurs. Aujourd'hui, n'importe qui peut. Donc on envoie des emails gratuitement quand on trouve un secret, mais les développeurs peuvent créer un compte Guild Guardian, scanner leur repo et même installer le pré-commit.
C'est open source ou c'est vraiment plus le freemium comment...
C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les développeurs peuvent installer Guild Guardian en pré-commit. Okay. Qui va utiliser notre API pour trouver les secrets, ou c'est une combinaison d'un moteur heuristique et de machine learning, mais c'est gratuit pour les développeurs individuels et payant pour les entreprises. Et aujourd'hui, Guild Guardian est devenue l'application de sécurité la plus installée au monde il y a quelques mois, avec plus de 600 000 développeurs qui nous utilisent, donc on est plutôt content de ça.
Ah, c'est très cool, très cool. Puis, pour commencer à parler du rapport, moi, il y a une des métriques qui m'intéresse beaucoup. Évidemment, là, on parle d'AI sans cesse, on est obligé d'en parler. C'est le nombre de commits publiquement dans les GitHub et autres qui a explosé. Puis, on le voit dans vos métriques, là. Dans la dernière année, ça a augmenté presque de 50 %. Est-ce que ça fait une différence en découverte aussi de secrets? Y a-t-il un bordel au niveau AI ou c'est juste la quantité de code qui augmente, mais pas la quantité de secrets? Comment ça balance tout ça?
Alors, c'est une combinaison des deux. Alors, je crois que là, dans le chat, là, c'est celui de l'année dernière. On en a fait un nouveau qui est 2026, mais bon, ça vous permet d'avoir les deux. Ouais. Les deux rapports, mais pour revenir un peu sur effectivement le nombre de secrets, généralement ce qu'on voit c'est que effectivement le nombre de secrets est proportionnel au nombre de commits. Il y a à peu près un ratio entre le nombre de secrets qu'on trouve et le nombre de commits, donc plus les gens produisent de code, plus on va trouver de secrets. Donc ça, c'est un peu naturel. Mais ce qu'on voit, ce qui est particulièrement intéressant et qu'on identifie dans les trends, c'est qu'effectivement, il y a une accélération très forte de la production du code, à la fois sur les repos publics, et c'est encore plus vrai sur les repos privés. Mais surtout, et ça, c'est une grosse conséquence pour la sécurité des entreprises, qu'on voit notamment nous, à notre niveau, sur la gestion des secrets et les credentials, c'est qu'on a une émergence de nouvelles catégories de personnes sur GitHub qui sont... En fait, pas des développeurs, des gens qui n'ont pas de training, qui peuvent être soit les product managers, des gens qui travaillent en marketing, même en sales, qui vont créer des applications.
Ouais, tout le monde génère du code aujourd'hui, là, c'est ça la différence.
Et,
ouais.
et qui n'ont pas vraiment de formation. Et donc, ça les pousse à faire beaucoup plus d'erreurs. Et, et ça, on le voit réellement, effectivement. Sur GitHub public, il y a une statistique effectivement dans le rapport qui montre que notamment les gens qui utilisent des coding agents ont leaké deux fois plus de secrets en 2025 que les gens qui ne l'utilisent pas. C'est pas forcément la raison qui est un peu que les LLM génèrent du code moins sécurisé ou produisent des secrets, c'est plus les gens qui les utilisent à la fois font moins attention et sont probablement aussi moins expérimentés, parce qu'en fait ça ouvre la possibilité de d'écrire du code à une nouvelle catégorie de personnes qui, en fait, n'en avaient jamais écrit avant. Et ça, c'est probablement, nous, la plus grosse vulnérabilité qu'on voit. Et je dirais la deuxième, elle est presque plus aussi philosophique, c'est je pense que les LLM et les coding agents poussent les gens à toujours aller plus vite. Donc, c'est un trade-off entre vélocité et sécurité. Et donc, à faire moins attention. Et je pense que ça, c'est vrai, pas seulement pour le code, hein, c'est vrai aussi pour la production de contenu et beaucoup de choses en général, mais qui, pour la sécurité, je pense, pose pas mal de problèmes.
Puis, est-ce qu'on se rend compte, je ne sais pas si vous avez la donnée, mais est-ce que dans les secrets qui sont découverts reliés à l'AI, est-ce que c'est des applications qui sont exposées quelque part ou ça roule sur un poste d'une personne? C'est quoi l'exposition que ça donne parce que justement, tu sais, tout le monde est capable de développer quelque chose?
Ben, c'est très intéressant. C'est-à-dire que nous, dans les secrets, par exemple, on voit une émergence dans le rapport. On trouve 80% de plus de secrets liés à plutôt les AI providers que l'année dernière. Donc ça, on parle, quand on dit les providers d'intelligence artificielle, on va parler de clés OpenAI qui donnent accès à l'API, au modèle. Ça peut être les clés Anthropique, les clés Azure OpenAI, XAI, toutes ces clés-là, Mistral en France. Et effectivement, généralement, les gens peuvent liquer les clés qui donnent accès finalement, qui sont les clés de leur entreprise, où dedans, il peut y avoir de l'information sensible. Donc, non seulement ça permet à des attaquants de, je dirais, de voler leurs quotas et de faire exploser leurs factures, mais finalement, je dirais que ça, c'est la côté, c'est pas si grave que ça, c'est que de l'argent à la fin. La partie plus importante, ça peut être un vol de modèles propriétaires ou un vol de training set, où là, on a effectivement des clés qui ont des accès un peu plus privilégiés qui peuvent permettre de faire ça. Et ça, c'est un vrai enjeu qu'on voit. Et surtout, de manière générale, on voit énormément d'applications vibe codées où finalement, quasiment tout le point, où les fichiers de config avec les secrets sont leakés, où là, on a accès à tout, hein, finalement, la base de données, les API de LLM, même des fois, les clés TLS, les clés SSH, quand il y a de l'infra, quand il y a de l'infra associée. Enfin, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se retrouver exposées publiquement.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est quoi l'approche? C'est bien de détecter les clés, mais je pense que le problème est beaucoup plus grand que ça, hein?
C'est une très bonne question. Nous, on dit souvent avec nos clients que finalement, si on fait que de la détection et sans remédiation, on n'apporte que du bruit à nos clients. Et je pense que c'est encore plus vrai dans le monde d'aujourd'hui, où maintenant on peut détecter de plus en plus de problèmes, notamment avec les LLM. On a vu un peu le marketing agressif de Mythos et d'autres, mais je pense qu'il y a une réalité, hein. Moi, je pense profondément que ces modèles donnent avant tout un avantage énorme aux attaquants, parce que c'est toujours plus facile d'attaquer que de défendre, hein. C'est un peu comme dans la vie, c'est toujours plus facile de détruire de la valeur que l'on crée. Et donc, en tant que, je dirais, sur le côté défense, ça pousse à être capable de remédier très vite. À la fois, je pense, de détecter les attaques très vite, mais aussi de remédier très vite. Et ça, c'est un vrai enjeu qui est encore plus compliqué pour nous pour la partie secret, parce que contrairement à des vulnérabilités dans le code, où finalement, il suffit de patcher, entre guillemets, le code pour résoudre la vulnérabilité, qui est devenue plus facile aujourd'hui avec les coding agents qui peuvent probablement le faire en temps réel, voire de façon asynchrone dans le background. Pour la partie des secrets, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'une fois que le secret il a été exposé, il doit être considéré comme compromis et il faut rotate et revoke le credential.
Ok,
Et
Steve.
donc, oui.
Steve.
Question?
Oui.
Oui.
Le côté défense que vous invoquez, on parle de trucs secrets, mais on peut parler aussi d'une compagnie privée avec sa propriété intellectuelle native. Qu'est-ce qui motive à spécifiquement cerner l'approche avec une institution publique versus une compagnie privée? Je veux dire, les deux vont être exposés aux mêmes acteurs de la menace, mais évidemment, pour aller chercher quelque chose qui est une information qui est quand même très croustillante.
Alors, nous, effectivement, on défend à la fois les boîtes privées, les développeurs individuels, les institutions. Je pense qu'aujourd'hui, l'outil Guide Guardian, il sert à protéger les entreprises et les développeurs contre les lieux de secret, ce qui est la frontière qui est en fait aujourd'hui, qui a été un peu franchie, c'est notamment sur la machine du développeur. Sur la machine du développeur, on va trouver les secrets qui appartiennent à son entreprise, aussi un peu des secrets personnels. Donc, nous, on a une approche qui a toujours été d'aider les développeurs à mieux sécuriser leurs secrets et écrire du code plus sécurisé. Et donc, à essayer d'aider les deux parties, à la fois le développeur individuel et à la fois à protéger l'entreprise.
D'accord.
Puis la solution, pas optimale, mais presque, c'est quoi qu'on suggère à tout le monde pour gérer les secrets? Parce que au niveau développeur, justement, le pré-commit, quand tu es sur ta machine avec tes secrets, généralement, ils vont le saver localement. T'sais, ils vont l'enregistrer. Mais quand on tombe plus dans les répertoires ou sur un serveur, c'est quoi la bonne approche au final? C'est quoi qu'on recommande?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, je pense que ça a en plus beaucoup évolué, hein, pour partager un peu même l'évolution, je dirais, sur les dernières. Effectivement, moi, pour partager même quand j'ai créé GuideGuardian il y a 6-7 ans, on me disait effectivement, bah oui, effectivement, c'est un problème de mettre des secrets dans des repos publics, mais c'est peut-être pas si grave de les mettre dans des repos privés. Et les gens ont beaucoup évolué là-dessus, parce qu'ils se sont rendus compte que, bah, effectivement, quand il y a un
Les
secret dans les
brèches
repos
sont
privés,
internes, ne sont pas externes.
exactement. Le code, il est fait pour être distribué, packagé. Et donc, en fait, le code est quelque chose qui est pas du tout, même du code privé, quelque chose qui est pas du tout sécure. Donc, il y a une évolution des mentalités. Aujourd'hui, je pense que plus personne ne pense comme ça. Les gens savent qu'un secret dans les codes privés, c'est une mauvaise pratique. C'est plus par soit paresse, soit ignorance qui font cette erreur, et l'erreur est humaine. Hein. Mais c'est très intéressant parce que même il y a 2, 3 ans, même GuideGuardian ont conseillé effectivement, bah non, il faut pas mettre les secrets dans le code. Il faut les mettre dans des variables d'environnement, dans des fichiers .env, des fichiers config qui sont faits pour rester sur la machine. Cette approche récemment, sur les 6-8 derniers mois, elle devient même de moins en moins sécure, voire totalement insécure. On l'a vu avec les attaques de software supply chain, que ce soit SHA-Hulud, LightLLM, enfin Trivi LightLLM. Maintenant, en fait, le but de quasiment tous les attaquants, c'est finalement de voler les secrets sur la machine du développeur parce qu'ils trouvent des choses qui donnent des accès très privilégiés, ce qu'on voit, ce qui est tout à fait vrai. Et c'est un peu le nouveau changement de paradigme qu'on a. On voit que la machine du développeur devient la nouvelle cible des attaquants. Et donc là-dessus, il faut vraiment un changement profond de mentalité sur la gestion des secrets. Donc je pense y a plusieurs approches. Il n'y a pas une approche qui marche bien. Pour une entreprise, il faut mettre en place finalement des gestionnaires de secrets à scale, utiliser plus de dynamic secrets ou des secrets avec des durées de vie limitées, de
Le
l'identity
concept de just in
federation.
time, de faire une requête pour avoir
Voilà,
un accès, ouais.
le just in time. Donc y a pas mal de façons, mais c'est déjà des bons points d'entrée. Et après, je pense aussi de manière même plus stratégique pour les CISO et les leaders en sécurité. Moi, je pense qu'on vit dans un monde avec l'agentic qui devient un peu zero trust et assume breach, c'est-à-dire que les attaquants vont réussir à entrer, enfin, et peut-être 10 fois plus qu'il y a 12 ou 18 mois, parce que l'IA leur permet finalement de trouver extrêmement facilement toutes les portes d'entrée. Et donc, il faut être capable. En fait, ce qui est très dur pour une entreprise, surtout une entreprise d'une certaine taille, c'est que mettre en place ces outils-là et de les déployer à scale, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 1 mois ou même en 6 mois. C'est des
Ouais,
projets qui vont durer plusieurs années. Et c'est là où des outils comme GuideGuardian aident beaucoup. C'est nous, en fait, on a une approche holistique sur la protection des secrets, c'est pas juste les détecter, on met en place aussi ce qu'on appelle des honey tokens ou des canary tokens, qui sont des faux secrets qu'on va disséminer un peu partout dans l'infrastructure des clients.
okay.
Et on sait que les attaquants vont les scanner, ils vont les déclencher, et on peut détecter où, quand et comment un attaquant entre. On met en place ce multi-layer of defense pour les développeurs, les employés, où GuideGuardian, il va être présent dans les coding agents en hook, on peut déployer GuideGuardian en pré-commit, on peut déployer GuideGuardian dans la CRI. On peut déployer GuideGuardian en post-receive. On peut scanner tous les systèmes, que ce soit le code, Slack, Confluence, tous les systèmes qui pourraient contenir des secrets, pour vraiment donner, en fait. Donc ça, c'est vraiment la partie de savoir, OK, où sont mes secrets leakés qu'un attaquant pourrait trouver, mais aussi donner une visibilité sur comment sont utilisés les secrets, où ils sont stockés. Donc on va s'intégrer avec tous les secret managers du marché, que ce soit HashiCorp Vault, Conjure, Amazon KMS. Et aussi pour savoir où sont stockés les secrets, et aussi au runtime, essayer de comprendre quel est le workload, quelle application les utilise, et aussi essayer de comprendre qui les a créés en s'intégrant aux différents, ce qu'on appelle les non-human identity providers, ça peut être AWS, Snowflake, Databricks, enfin, qui a créé les entités, pour vraiment donner une visibilité totale aux clients et les aider à passer d'un monde où ces secrets ils sont leakés un peu partout. Et c'est finalement des portes d'entrée pour les attaquants à un monde où ils ont réduit le risque et ils peuvent détecter une attaque en temps réel. Donc ça, c'est vraiment finalement la mission que nous, on conseille aux entreprises. Et après, il y a la partie développeur, où là, moi, je pense qu'il y a un vrai, il y a un vrai push à faire sur un peu tout ce qui est local vault. Donc, ça peut être keychain, ça peut être des outils comme un password, où il faut arrêter de stocker les fichiers sur le file system, parce que en fait, c'est tellement facile pour un attaquant de déployer un malware. Il liste des fichiers, des secrets sur file system, il les prend, il déchiffre et il les envoie. On l'a vu sur Sharyulu, le vecteur d'exfiltration, c'est des repos publics GitHub, c'est assez magique parce qu'aucun EDR ne bloquera, ne peut bloquer finalement le push d'une machine sur un repo public parce que c'est une action qui est legit, qui est faite pour arriver. Et les EDR sont profondément limités par ça. Ils sont incapables aujourd'hui de faire face à ces nouvelles menaces parce que la majeure partie des exfiltrations aujourd'hui faites par ces malwares-là sont des actions qui sont honnêtement très dures à distinguer d'une action légitime.
Ça fait bien du sens. Un des points que je voulais surtout parler, puis tu en as fait la mention un petit peu, on parle beaucoup de secrets dans le code source, évidemment, mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup ailleurs du code source, puis je pense que c'est là qu'il y a des grosses brèches et là que le monde ne se rend pas compte non plus en entreprise qui expose leur code au mauvais endroit. Puis je l'ai vu en entreprise aussi personnellement, puis c'était un de nos gros problèmes dans certaines grandes organisations, c'est de partager les messages dans Teams, dans Slack, dans les Jira de ce monde ou toutes les wikis. Ça ressemble à quoi les métriques là-dessus? Puis est-ce que c'est vraiment là où il y a beaucoup de leaks, de brèches? Ou...
Alors, effectivement, aujourd'hui, Guilherme trouve un peu 30% des secrets qu'on trouve sont en dehors du code et c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter récemment. Et pour l'instant, ce chiffre, il n'est que scopé à des autres sources, mais pas les machines des développeurs. Donc, quand on dit ces autres sources, ça va être effectivement Slack ou Teams, Jira Confluence. Les images Docker, aujourd'hui les sources que supporte GitGarden, on en rajoute de plus en plus. Là, on va faire aussi des grosses intégrations pour aller scanner même les SharePoint, les Google Drive, donc un peu tout ce qui est les systèmes partagés de fichiers où on voit beaucoup chez certains clients, ils vont avoir un Google Doc ou un Word avec tous les mots de passe de l'entreprise. Ça existe encore, malheureusement, ce genre de choses. Et l'autre paradigme, effectivement, sur les machines des développeurs, alors là, je pense que c'est même beaucoup plus, on trouve beaucoup plus de secrets que dans le code en général, qui pour nous devient le... Pour une raison qui est assez simple à comprendre, c'est que déjà, en fait, les secrets qu'on trouve dans le code sont généralement inclus sur toute la flotte des machines des développeurs puisqu'ils ont cloné les repos de code sur leur machine. Et en plus de ça, il faut ajouter finalement tous les .env et les fichiers de config de chaque développeur. Donc, a priori, sur les machines des développeurs, on trouve de toute façon plus de stockage que dans le code. Donc, et c'est un peu la vision, je pense, que GitGarden pousse aujourd'hui, c'est de dire que, en fait, et surtout, on le voit avec les agents, ça devient extrêmement dur de limiter les permissions des gens à des systèmes et qui est probablement aussi une des raisons aujourd'hui pourquoi les machines, les développeurs sont les plus grosses targets des attaquants au-delà même des secrets. Nous, ce qu'on dit beaucoup à nos clients, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'agents de code et d'agents qui vont tourner sur les machines. Pour être pertinents, ces agents, ils ont besoin d'être connectés à beaucoup de sources externes via MCP, via des connexions natives, ils vont être connectés au knowledge system de la boîte, ils vont être connectés généralement au VCS de la boîte, donc au GitHub, GitLab, ils vont être connectés des fois même à des bases de données, au CRM, pour pouvoir finalement faire des queries et de l'agrégation d'informations. Et en fait, ça, c'est vraiment un trésor et une cible parfaite pour les attaquants parce que ça leur permet en fait de voler de l'information un peu globale de l'entreprise une fois qu'ils ont compromis juste un asset ou un poste de travail du développeur. Et en fait, nous, c'est aussi beaucoup ce qu'on pousse. Et si, par exemple, si un des secrets sur Jira, en fait, il suffit juste de prendre le contrôle d'un ordinateur et de l'agent qui a accès à Jira, de lui demander d'énumérer les tickets, de le scanner pour des secrets, de trouver le secret et de bouger latéralement. Et ça, je pense que les parties, les langues d'identité, tout ce qui est Identity Security, n'ont pas encore compris le changement profond de paradigme que les agents créent, où en fait, le principe même de least privilege et de ségrégation des accès, il est déjà en train de
Parce qu'ils ont énormément de privilèges par défaut, justement pour se créer un contexte.
C'est dans cette Exactement. Et puis c'est voulu, en fait, les entreprises veulent donner accès à leurs employés, à tous les tickets Jira pour aux sales, pour essayer de comprendre qu'est-ce que leurs clients demandent, aux product managers pour essayer de faire des insights sur les customers. Enfin, et le business poussera toujours pour rendre ça possible, et surtout dans les environnements où on vit, où l'adoption de l'IA est devenue probablement un des objectifs numéro un au niveau du board pour les entreprises. C'est devenu la vélocité a pris largement le pas sur la sécurité. Donc c'est un peu, je pense que malheureusement ça va créer énormément de failles futures, et on voit, c'est que le début sur cette partie-là.
Est-ce que vous avez une visibilité sur le nombre de brèches, mettons ransomware ou autre, qui passent du phishing, parce que là on s'entend, la majorité du temps c'est un phishing ou quelque chose comme ça, puis qui bougent jusqu'à voler des secrets pour faire l'exfiltration ou le chiffrement des données? Est-ce qu'on a une vision de ça ou...
Bah, on a une vision qui est assez même... en fait, c'est même plutôt l'inverse que je pense. Est-ce que... Quelle attaque récemment on a vu qui n'implique pas de l'exfiltration de credentials? Aujourd'hui, quasiment toutes les attaques incluent à un moment ou à un autre l'exfiltration de credentials. Moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple de l'attaque par supply chain, la software supply chain d'Axios. Je ne sais pas si vous avez suivi cette attaque-là, mais c'est une attaque passionnante où, en fait, les attaquants, je crois, c'est un groupe nord-coréen. En fait, ils se font passer pour des potentiels clients hyper intéressés par le mainteneur d'Axios pour lui acheter des choses. Ils programment un call sur Teams avec le mainteneur. Une heure ou 1h30 avant le call, ils disent « Ah, on tourne sur une version de Teams, est-ce que tu peux l'installer ?» Bien sûr, la version Teams inclut un malware qui vole son secret NPM. Et là, ils volent le secret NPM qui donne accès à Axios, qui est un des packages de la communauté JS, qui est de Node, qui est les plus utilisés. Et là-dedans, ils compromettent le package, ils mettent un malware qui va voler les secrets de tous ceux qui installent le package. Donc, c'est hyper intéressant. On a un double mouvement latéral, enfin, où on vole le secret d'un mainteneur d'un énorme package qui lui-même va être distribué sur plein de machines, qui eux-mêmes, avec un autre malware, qui va voler des secrets. Et va vraiment, là, on voit le côté un peu récursif et la dissémination d'une attaque. Mais le but ultime, finalement, des attaquants, c'est toujours d'avoir le plus de privilèges pour faire le plus de dommages. Donc, la partie maintenant vol de secrets devient... c'est tellement facile, en fait, comme attaque. Il n'y a même pas besoin d'être... Même aujourd'hui, j'utilise des outils automatisés. Nous, on le voit beaucoup. Ils vont utiliser des packages open source comme Truffalog ou GitLeaks, qui sont des softwares qui permettent de très rapidement énumérer beaucoup de fichiers pour trouver des secrets. Et donc c'est très... c'est effectivement, ça fait très peur. Donc, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est un peu ça, hein, c'est de se dire que l'attaquant, il va réussir à rentrer, que ce soit là dans le cas d'Axios, c'est vraiment une social engineering attack. Ça peut être du phishing, ça peut être une software supply chain attack. Maintenant, il y a aussi les malicious skills pour les agents. C'est vraiment, et c'est terrible parce qu'en plus, il y a le nouveau périmètre où maintenant l'agent qu'on a sur notre ordinateur peut lui-même prendre des actions non vérifiées, où il peut télécharger un package, il peut installer un skin, il peut naviguer sur Internet, il peut dialoguer avec quelqu'un. Donc, ça ouvre encore une surface d'attaque qui est encore plus importante.
Messieurs Steve, Francis, c'est quoi votre vision là-dessus dans vos clients? Ce que vous voyez sur le marché? Avez-vous eu l'expérience de ça? Parce que c'est sûr que
Pas de mon côté, Pat. Tu es vraiment plus impliqué dans avec des compagnies qui vont faire du développement que moi, j'en ai pas vu jusqu'à présent. Et par contre, je relate avec toi, Eric, là, sur comment est-ce que les Nord-Coréens s'en sont pris avec cette méthodologie. Et ils sont vraiment très perspicaces dans l'approche. Ce qui me surprend pas que ce soit eux beaucoup plus que peut-être les autres classes de malfaisants, les Chinois ou bien les Russes là, dans ces cas-là. Mais définitivement, c'est un coin, pour pas dire un lieu de l'Internet là, qui a été longtemps sous-estimé et que là, ben aujourd'hui, vos recherches le prouvent, vos rapports annuels le prouvent sur le fait que beaucoup d'informations essentielles à une organisation s'y retrouvent.
Parce qu'au niveau des PME, des petites entreprises, ça ne doit pas être super géré. Je ne sais pas, Eric, c'est quoi ta vision des plus petites entreprises, mais parce que ça, c'est un projet, ben pas un projet, mais un problème que j'ai vu dans des grandes entreprises. Ben pas qu'il n'existe pas nulle part, mais je veux dire, il y a une équipe de sécurité qui va lever ce problème-là. Mais en PME, ça ressemble à quoi? Ce que vous avez.
Alors, je pense que c'est un vrai sujet pour les PME. Je dirais heureusement, mais c'est qu'une question de temps. Pour l'instant, les attaquants ciblent encore des entreprises où finalement ils peuvent finalement gagner de l'argent. Hein. Ça reste une activité qui est fortement motivée par l'argent. Mais je pense que c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question. Historiquement, les attaquants ont une réflexion très par héros, il fait combien ils vont passer de temps pour finalement gagner combien d'argent. Donc c'est effectivement, à mon avis, plus simple de cibler des grosses entreprises parce que y a plus de portes d'entrée et potentiellement ils peuvent payer plus d'argent. Mais cette logique-là, en fait, explose aussi à l'heure de l'IA où finalement, si le coût de trouver une vulnérabilité d'entrée passe de $100 à $1 parce qu'en fait c'est un agent qui le fait et c'est plus le temps d'un humain. Alors là effectivement on entre dans une nouvelle dimension pour les PME et ça c'est vraiment je pense c'est vraiment un énorme problème où là effectivement Guardian est quand même une solution très spécialisée. Je pense que on n'est pas forcément il y a d'autres solutions à installer avant Guardian pour les PME. Je pense que même un EDR sur ces sujets-là ou des gens qui proposent des solutions agrégées. Après, je pense que Guardian est toujours utile, mais faut déjà avoir des développeurs, il faut déjà avoir installer des secrets, ce que beaucoup de PME n'ont pas encore conçu. Alors peut-être qu'à l'ère de l'IA, ça va aussi augmenter sur cette partie-là. Mais c'est assez intéressant, je pense que je pense qu'on ne le voit pas encore aujourd'hui profondément, mais c'est quelque chose qui va arriver à toute vitesse.
Mais Eric, pour résoudre la surface d'attaque, là, et ça, c'est pour peut-être répondre aux questions de certains non-initiés du podcast, pourquoi les gens, les compagnies, les organisations, les développeurs vont porter davantage du code quand même essentiel au développement à l'extérieur de le périmètre d'entreprise ou d'organisation? Qu'est-ce qui motive que ça s'est rendu? C'est-tu juste une mode ou bien c'est quelque chose d'essentiel d'aller porter ça à l'extérieur du périmètre?
Alors, je pense que le Guardian a commencé par scanner le code open source, donc qui est publiquement accessible. Aujourd'hui, bien sûr, après 1 ou 2 ans, nos clients nous ont demandé si vous pouvez scanner notre code interne, qui est aussi un problème et un périmètre à sécuriser. Mais je dirais que l'open source, avec l'ère de l'IA, est-ce que ça va changer? J'espère pas, mais malheureusement, je pense que ça va pas forcément dans le bon sens sur le futur de l'open source. Mais la motivation, effectivement, c'était de dire, elle était double. Hein, je pense que c'était pour les développeurs de pouvoir partager une partie de leur code qui sert un peu à montrer ce qu'ils sont capables de faire.
Ouais.
Et pour les entreprises, d'utiliser des composants externes pour développer plus vite. Donc voilà, c'est double.
Ouais, le concept de cloud aussi là, tu sais,
ouais, c'est ça.
AWS, GitHub, peu importe, qu'est-ce qui est hébergé en dehors. C'est un peu là ma question PME parce que la majorité des PME, on en parle souvent, c'est leur code, leur environnement. Leur système est généralement géré à l'extérieur. Fait que c'est une firme de développement ou une firme qui gère les serveurs qui vont faire ça. Puis c'est eux qui vont avoir ce problème-là au final. Tu as raison, Eric, c'est pas tellement la PME en tant que telle, mais c'est leur supply chain officielle qui font la gestion de tout ça, là. Francis?
Ben moi, je vais enchaîner un petit peu. J'ai une couple de points que j'ai pris en note depuis tout à l'heure, là, quand tu nous as demandé d'intervenir. Là. C'est sûr que moi, je vois présentement, dans ce que j'écoute, dans ce que j'ai lu dans le rapport, tout ce qui est dépôt public ou privé, ça a été des catalyseurs à des mauvaises pratiques qu'on avait déjà. Okay? On avait des mauvaises pratiques, ça a juste amplifié les mauvaises pratiques. Quand on parle de l'IA, on amplifie encore les mauvaises pratiques. À la base, on n'a pas les bonnes. T'sais, moi, je vais regarder plus le côté académique. Moi, je regarde quand j'ai fait mes cours de programmation avancée. On ne parle pas de sécurité. Okay? On va parler beaucoup de fonctionnalités. On va parler beaucoup de maintenance du code. Hein, t'sais, de juste être capable de commenter ton code correctement pour que si jamais tu te fais frapper par la foudre, quelqu'un pourra continuer ton travail. T'sais, pas te ramasser avec du code que tu es tout seul à comprendre. Ça, on en parlait beaucoup. Mais l'utilisation des GitHub de ce monde, des dépôts, du cloud, on en parle très, très, très peu. Okay? Donc, je pense que déjà, à l'origine, il y a une problématique. Quand on parlait du security to obscurity, on le sait, c'est plus bon. On a séparé, à un moment donné, les méthodes de chiffrement des clés en disant, ton code n'est pas censé être nécessairement... C'est pas important qu'il soit tant secret, en autant que les clés le sont. Parce que c'est les clés qui ont une importance capitale. Et quand est rendu que tu gardes les clés à même place que le code, ou pire, les clés sont hard-codées dans le code, bien, c'est des bonnes pratiques qui se sont perdues, hein, puis qui existaient déjà avant, mais on l'a comme jamais vraiment intégré. Puis là, j'ai l'impression que là, tout explose. Comme je dis, on multiplie les dépôts publics, puis les l'IA est un facteur multiplicatif des mauvaises pratiques qu'on n'a pas été capable d'intégrer. Il y a quand même des années là, qu'on aurait dû intégrer. Et le dernier point que je voulais parler, l'histoire d'attaquer les machines des développeurs, encore là, c'est une pratique qui est vieux comme le monde, d'avoir une cible secondaire. Hein. Tu veux attaquer, la maison du premier ministre, ben, commence par attaquer les laptops et la maison des gardes du corps ou de la femme de ménage, ou etc. Parce que la femme de ménage a probablement la clé de la maison du premier ministre chez eux. Donc, si tu veux attaquer la maison du premier ministre, ben, commence par attaquer la maison de la femme de ménage. Et historiquement, moi, dans le domaine physique, quand tu essayais de dire on va protéger la maison de la femme de ménage, c'était comme, ben voyons donc, on s'en sac de la femme de ménage. Non, on s'en sac pas parce qu'elle, elle possède des secrets, elle possède des credentials, elle possède des clés, des codes, elle possède des choses qui permettent d'attaquer la cible principale. Mais ça, c'est difficile de comprendre ça. Et fait qu'on sécurise beaucoup les serveurs, les systèmes. Et à côté, ben, les développeurs, on s'entend, c'est la caverne d'Alibaba, pas un attaquant, là. C'est à peu près ça que j'avais à dire.
Mais là, on a le problème de l'œuf là-dedans. Ou la poule, Francis. Non, parce que l'œuf ou la poule, il te faut un secret pour accéder au secret manager. Il y a tout le temps un secret quelque part. Puis la majorité du monde ne savent pas comment le gérer comme il faut, ce concept un peu plate-là avec les vaults et tout. Là, parce qu'ils vont aller hard-coder le secret à mauvaise place.
Mais c'est très vrai.
Allez-y, M. Fouillet.
Oui, oui.
Non, l'analogie, je trouve qu'effectivement, l'analogie de la maison du Premier ministre et effectivement de la femme de ménage de garde du corps est une bonne analogie. Et c'est exactement le problème qu'on voit. Et Patrick, effectivement, sur le secret manager ne résout pas tous les problèmes. À la fin, il y a toujours un besoin d'accéder à un secret pour accéder au gestionnaire de secrets. Après, ça limite aussi le blast radius, ce qui est un peu... Ce qui a toujours été aussi notre philosophie à GateGuardian, c'est de la perfection, elle n'existe pas. Et si déjà on peut résoudre les petits problèmes, les problèmes les plus importants, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'historiquement, on a commencé par, et qu'on recommande à nos clients dans l'ordre, de se dire, d'accord, il faut, quand on va faire un scan sur tous vos systèmes pour les secrets, on va en trouver des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. On commence par les secrets à exposer publiquement. Après, on va regarder, OK, c'est quoi les secrets qui ont les plus hauts privilèges et qui pourraient faire le plus de dégâts. C'est ceux-là qu'il faut prioriser, c'est ceux-là qu'il faut remédier. Enfin, il y a un vrai, finalement, il y a un vrai rollout et une vraie priorisation parce que c'est vraiment une montagne de travail, en fait. Et Francis, je suis très d'accord
quand
avec
ça existe
le...
déjà, là, ouais, c'est beaucoup. Là. Ouais.
C'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de mauvaises pratiques qui sont accumulées sur des années, voire des dizaines d'années pour certaines bases de code. Et je suis très aligné avec le fait que l'AI ne... En fait, l'AI ne fait qu'amplifier ces choses-là. Ouais. Mais en plus, je rajouterais que ça donne un biais à cette hyper-vitesse, en fait, ou même pour avoir... moi, je suis un ancien développeur, pour avoir utilisé l'AI au quotidien et l'utilisé tous les jours, ça renforce la valeur vitesse et ça la met au-dessus de tout. Et on se sent bien en vrai, hein, quand on se dit, ah, voilà, j'ai réussi à coder ça en 2 heures. Hein, ça donne un sentiment assez gratifiant. Mais, et on oublie finalement, mais d'accord, mais est-ce que j'ai créé du code sécure? Est-ce que j'ai créé du code robuste? C'est devenu même presque plus important, objectivement. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet de fond. C'est un vrai sujet de fond.
Tout à fait.
La sécurité n'est pas une valeur absolue. C'est pas quelque chose qui est valorisé. Tu finis de faire ton code. Je donne souvent l'exemple. Tu viens d'installer des super grosses serrures chez vous ou un gros système d'alarme. Tu n'invites pas tes chums à souper avec un popcorn en disant « Hey, on va s'asseoir devant mes serrures, on va checker ça, c'est l'enfer, c'est malade. » On fait pas ça. Puis les gens qui font du code à l'université, c'est la fonctionnalité. Regarde, c'est capable de faire ça. C'est ça qui impressionne. Et c'est très rare qu'on ait un étudiant qui fait du code qui va venir dire « Hey, viens voir mon code. Il ne fait pas grand-chose. Ah, mais il est malade, sa sécurité, c'est l'enfer. » Tu sais, c'est comme « Ah, OK, c'est comme, tu sais, c'est, ça ne fait pas grand-chose en affaire, mais c'est sécuritaire. » C'est pas valorisé tellement, je pense, dans le milieu du développeur.
Bon, mais revise ton cercle d'amis, Francis, parce que moi, c'est certain que c'est le fun d'éviter les chums qui regardent ça un soir et tu tripes, là, voyons donc.
Ah oui, OK, tout est de même, toi, OK, c'est bon. C'est fun, ça. Ah, ben, j'ai connu des gens, moi, qui ont changé un alternateur sur les autos, là, ils faisaient venir des chums à la maison, puis là, ils passaient comme une demi-heure autour du char avec
le
check mon nouvel alternateur, mais je dirais je me tiens relativement loin des gens comme ça.
Est-ce qu'une bonne méthode de sécuriser, c'est de réduire le scope des secrets, au final? C'est-tu là qu'on s'en va?
Alors, effectivement, réduire le scope, alors c'est techniquement assez dur à faire à la volée de réduire le scope, mais surtout les nouveaux secrets qui sont créés, je pense que les deux meilleures pratiques, c'est d'appliquer le least privilege qui a toujours été là et la partie just in time et dynamique. Je pense que c'est déjà une très bonne pratique. Et après, des actions très pragmatiques, hein, que nous on recommande. Je peux donner un exemple tout simple, hein. Les coding agents prennent beaucoup de... En fait, ils vont stocker énormément d'informations sur leur session. Généralement, ils vont dumper tout le terminal output sur la machine. Bon, le terminal output, il y a des secrets. Et même, en fait, sur une machine, un développeur, que ce soit dans les fichiers de log, les fichiers d'history, l'output des agents, il y a énormément de secrets qui sont même pas utilisés par les applications, qui sont juste, en fait, des dumps de log. Et là, rien que de rédacter ces secrets-là, ce qui est une action très simple, hein, ça peut limiter fortement la surface d'attaque. Et après, pareil, ce qu'on recommande beaucoup, c'est de sécuriser les secrets importants dans un keychain, dans des vaults, qui fait qu'apparemment, un attaquant nativement, s'il a accès au file system, il ne lui suffit pas juste de regarder dans les fichiers pour trouver les secrets. Il faudrait aussi qu'il ait accès à Keychain, ce qui quand même lui demande plus d'efforts et plus de... Et généralement, qu'aujourd'hui, si même on regarde les différents malwares, ils ne font pas ça. Donc déjà, nous, c'est vraiment une approche qu'on recommande beaucoup. C'est des approches très pragmatiques parce que la réalité, c'est très dur. Les approches les plus, les plus perfectionnistes et les plus profondes sont généralement les plus dures à mettre en place et décourage pas mal les entreprises comme les développeurs.
Puis, dernier point avant qu'on se quitte, puis je veux faire intervenir Jacques, qui n'est pas avec nous, mais on l'a en audio, là. Mais le point de... la métrique est assez intense, là, mais c'est 64% des secrets de 2022 qui sont encore valides. Là, Jacques, il dit tout le temps ça.
Patchez vos systèmes.
Faut vous patcher vos vieux secrets aussi, là.
Excusez. Effectivement, cette métrique, elle témoigne de l'ampleur du problème qui est la remédiation. C'est-à-dire qui illustre beaucoup notre point, c'est que ça ne sert à rien de détecter des choses si on ne peut pas les remédier. Et malheureusement, l'état aujourd'hui, il est terrible. C'est que les gens ne remédient pas les secrets exposés. Et donc, il y a un vrai combat pour aller les trouver. Et c'est vrai que ça donne un avantage qui est tellement unfair hein, aux attaquants. Hein. C'est-à-dire, en fait, je peux trouver un vieux secret qui est là depuis 4-5 ans. Bah, il est toujours valide et je vais entrer dans le système d'une entreprise. Généralement, secret, bah, probablement le repo de code, il a été effacé depuis GitHub. Donc, les entreprises n'ont même pas idée qu'il y a une porte d'entrée qui traîne. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont besoin d'outils comme GitGuardian. Nous, on garde un peu... On est capable de garder cette trace et cette copie d'un secret qui était leaké dans le passé. Mais c'est là où, effectivement, c'est très dur en tant que défenseur parce que il suffit... C'est ce que je dis beaucoup... aux développeurs et à nos clients et nos prospects, il suffit d'un secret pour rentrer et faire des dommages. Donc, donc cette métrique-là, je pense que c'est un peu un appel pour toute l'industrie. C'est il faut se mettre au travail pour remédier les problèmes, surtout à l'ère de l'agentique AI où les attaquants ont une flotte d'agents qui vont attaquer pour eux, et ces choses-là, c'est assez facile à trouver, à exploiter.
Mais la discipline de travail, définitivement, est à revoir pour ne pas, justement, faire absence de connaissance de l'inventaire, et surtout, où est déposé le code, comme vous dites, Eric, là, parce que sinon, en un temps, ça va être disponible, tout le monde est au courant, puis le lendemain, bien, il n'est plus là. Les gens croient que tout bonnement, ça a été effacé, mais ça a été copié et effacé. Alors, je crois que c'est un bon avertissement pour tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, on n'en parle pas souvent de ce sujet-là parce que c'est comme interne à l'entreprise. On ne le voit pas sortir dans les brèches. Ouais. Mais je veux dire,
en impartition, quand ils vont porter ça en impartition avec une autre compagnie, là, souvent, cette tierce compagnie-là, pensant à nos fameuses applications gouvernementales. Moi, c'est ça, en arrière de la tête, que je disais.
Fait qu'il faut que tu aies même une clause de contrat pour vous gérer vos secrets comment?
Oui, exact.
Puis on a la majorité des PME, puis même gouvernement et autres, ils n'ont même pas ces clauses de base-là de sécurité, généralement, genre prouvez-moi que vous faites de la sécurité. Fait que rendu au niveau de la gestion des secrets, on est loin là, pour beaucoup, beaucoup de monde. Donc, merci Eric, super intéressant. Content de t'avoir avec nous.
Ben oui. Merci de m'avoir reçu. C'était passionnant comme discussion. Merci.
Pat, est-ce que le rapport, on va pouvoir le publier dans les show notes?
Oui, il va être dans les show notes, évidemment. Fait qu'allez lire ça. On mettra lui 2026 et 2025 pour faire les comparaisons aussi. Yeah. Et c'est ça. Si ça vous intéresse, gênez-vous pas à écrire à Eric Fourier et son équipe, à GitGuardian. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont en avoir de besoin après cette discussion-là.
Bien sûr.
Yes.
Hey, merci tout le monde. Je me trompe-tu ou GitGuardian, présentement, vous êtes en période de recrutement, d'embauche, ça se peut-tu?
Oui. On a fait une levée de fonds il y a 2 mois, donc belle levée de fonds de 50 millions pour s'étendre à la fois aux US et créer des nouveaux produits.
Bon, on a plein de monde dans la communauté là, qui cherche, donc on va les diriger vers là.
Ben, super.
Excellent. Merci tout le monde, on se revoit si tu peux et à bientôt. The French Connection.